sur la scène intermondiale.
RCV avec Pascal CV.
Que tous les coquins soient démasqués, jugés.
Boulevard.
1000 excuses, vraiment, c'est de ma faute, là. Je suis vraiment désolée. À 10h03, on commence l'émission un peu en retard. C'est pas parce qu'il y avait de la neige sur les réseaux routiers puis qu'on avait nos pneus d'été, là. C'est vraiment... Si vous n'êtes pas là à 9h30 environ, ou à partir de 9h30, je fais une chronique avec les gars du matin dans Rage Against le matin. Puis là, on s'est épivardé, on a pris un peu plus de temps, puis j'ai décidé, en tant que contrôleuse du temps, de laisser aller les choses, de continuer notre discussion, puis que ben, l'émission allait commencer un petit peu plus en retard. Mais c'est un bonheur de vous retrouver déjà. Déjà, vous faites les salutations. Vous savez que ça me touche particulièrement parce que je suis dans un petit studio toute seule derrière la console. Donc, le fait que vous soyez vocaux, ou du moins texto au 88-971-1021, ou encore sur Twitch, je sens vraiment que j'ai mes collègues de la journée à mes côtés. Twitch? Quelqu'un vient de dire Twitch, c'est quoi ça? Pour vrai? OK, on va vous le dire. Twitch.tv/BLVD/FM. C'est des caméras en studio. Donc, on est ensemble puis on jase continuellement. Mais en même temps, vous avez des images sur les habits qu'on porte, les faces qu'on fait, puis les invités qu'on a ici en studio. Toujours plaisant comme petite plateforme pour créer une intimité supplémentaire, tiens. Des fois, il y a des indésirables qui s'y glissent. Il fallait être là en début de semaine pour en profiter puis en rire tout le monde ensemble. Mais on les bannit. On est une société comme ça. Les gens qui dépassent les bornes, mais pas genre dépasser les bornes de façon non critique, là, quand ça dépasse vraiment les bornes. On passe le balai puis on sort les ordures. Bienvenue dans l'heure CV, mon nom est Pascal. Pascal CV, voilà pourquoi ben, ça s'appelle l'heure CV. On est ensemble jusqu'à 11h. Et dehors, on l'a dit, mais c'est une drôle de météo aujourd'hui. Peut-être un peu pour les prochains jours, mais je vous avais prévenu. Le soleil et les températures printanières, c'est dès dimanche. Bon, 0 degré, c'est ce qu'on a dehors. Il y a du bon vent. Je parlais avec des amis pompiers ce matin, puis ce qu'ils me disaient, c'est qu'ils ont beaucoup d'appels pour des abris tempo qui ont décidé d'aller prendre la route. Un petit voyage pour des abris tempo, c'est ça qui s'est passé un peu dans la ville de Québec ce matin. Ça pourrait monter jusqu'à 2 degrés comme maximum aujourd'hui. C'est de la neige là, sur tout le territoire de la grande capitale nationale. Vendredi et samedi, 4 degrés ou 5 degrés comme maximum et toujours des possibilités d'averses de neige ou de pluie. Nous sommes le 4 avril. Je pense que les stations de ski, pour plusieurs, sont encore ouvertes pour quelques jours, là, du moins jusqu'au 7 avril, si je ne me trompe pas, pour certaines. Donc, avec le climat actuel, la température actuelle, devrais-je dire, c'est le temps d'en profiter. C'est la bordée printanière, hein? L'hiver qui n'avait pas dit son dernier mot et surtout qui n'avait pas dit grand mot jusqu'à maintenant. Fait que je ne pense pas qu'on peut se permettre d'être pessimiste, fâché contre tout ça. Il n'y aura pas à pelleter comme à Montréal. Par contre, c'est rare là, que nous, on en a moins que nos amis au bord de la 20 puis la 40. Là. Mais beaucoup de débris, des branches cassées, des pousses de neige. J'espère qu'ils n'avaient pas leur pneu d'été. Moi, je me suis fait dire qu'en fin de semaine, il y avait aussi des motos qui étaient sorties à Montréal. C'est peut-être pas le temps. C'est peut-être pas le temps là, de prendre sa petite moto ce matin. Hey, merci beaucoup d'avoir choisi l'heure CV. Comme à notre habitude, on va la commencer avec un petit proverbe. Je la trouvais drôle, cette phrase-là. En fait, c'est un proverbe chinois. Ils sont très forts, malgré tout. Oui, la Chine s'y met encore dans notre émission. Mais les proverbes chinois sont très, très forts. Et celui-ci est... Quand on suit quelqu'un de bon, on apprend à devenir bon. Quand on suit un tigre, on apprend à mordre. Tenez-vous-le pour dit. Dans leur CV, c'est Soldia et Jay Scott avec Grand Frère dans vos oreilles. C'est une des préférées de Denis Gravel. Si vous avez manqué le fou rire de l'équipe du retour hier soir, allez voir ça sur la page Facebook de Boulevard.
J'ai bravé la
leur CV avec Pascal CV.
Plusieurs ont été témoins en direct du fou rire de la gang du retour hier. Puis je vais vous expliquer comment ça fonctionne ici à Boulevard 102.1. On a une conversation Messenger privée là, entre animateurs, entre collègues. Puis hier, j'étais au magasin. Mais c'est un magasin à grande surface. Puis la conversation n'arrête pas de vibrer. Ça vibre, ça vibre, ça vibre. Puis je suis comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis tout ce que je vois qui est écrit, c'est on recommence l'émission, arrêtez. Ça n'a pas de sens, ça dérape. Et finalement... C'est le plus grand des dérapages que l'équipe du retour probablement a connu ou un des plus grands dérapages. Et pour le bonheur de tous et chacun, il y a une partie de ça qui a été mise sur la page Facebook de Boulevard 102.1. Puis là, j'en ai juste glissé un mot là, avant de partir écouter de Jay Scott puis Soulja. Puis les auditeurs disaient, ben oui, on était là puis on a trippé. Et puis Véro a dit quelque chose de très intéressant. Si vous avez quelqu'un qui ne file pas ces temps-ci autour de vous, vous savez qu'il vit des moments un petit peu plus difficiles ou qu'il vit des moments un peu plus difficiles, rendez-vous sur la page Facebook ou encore sur le blvd.fm puis envoyez-leur la vidéo puis le petit extrait. C'est sûr que tu pars avec un fou rire. C'est un mélange de politique puis de niaiserie et de cuisine. Tiens, voilà, tout est dit. Hey, on parlait des conditions printanières, un peu hivernales, tiens, on va l'expliquer comme ça, qui sont sur notre région depuis quelques heures déjà. Je dois quand même vous dire que quelques pannes électriques dans certains secteurs, mais ça n'a rien à voir avec Montréal. Portneuf, il y a environ 350 clients privés d'électricité. La Côte-de-Beaupré est touchée aussi, la Jacques-Cartier. Québec, hors MRC, bon, certains endroits où c'est un petit peu plus difficile, mais l'équipe d'Hydro-Québec s'affaire, en fait, à vous rétablir le courant le plus rapidement possible. Quelques clients à Val-Bélair, Charlebourg et Beauport. Totalement normal, en fait, en ce moment, avec les conditions extérieures. Mais là, normal, ça dépend. Est-ce que vous attendez à quoi, là, du système d'Hydro-Québec? Je sais qu'on en parle beaucoup, puis pas nécessairement bien dans les dernières heures. Là, Fitzgibbon qui dit qu'on n'était pas prêt pour cette surcharge demandée en termes d'énergie. Puis ça a fait bien réagir. Mais bon, on va rester dans les nombreuses pannes dans plusieurs régions au Québec là, en ce moment pour vous donner le service adéquat. Si vous voyez quoi que ce soit sur la route ou encore que vous avez à signaler nécessairement la présence de services d'urgence dans certains quartiers, c'est le 418-971-1021. Vous êtes dans l'RCV et je veux vous parler absolument de la programmation de Cigale. L'année passée, j'y ai été pour la première fois. Cigale, c'est un festival après le Festival d'été de Québec, quelques jours après, en août, à la baie de Beauport. Ils ont aménagé ça pour que ça soit très, très relax. Là. C'est intime, c'est relax. Ils ont été victimes de leur succès la première année. Ils ont rétabli ça rapidement en ajoutant, entre autres, des camions de cuisine de rue. Et c'est vraiment... on se prend pas au sérieux, mais on fait bien notre job, disons-le comme ça. Des spectacles avec des artistes d'envergure, entre autres. Vous avez vu Lost Frequencies, peut-être à Igloo Fest. Vous avez eu un coup de cœur pendant Igloo Fest dans les dernières semaines. Bien, ils étaient là, à Cigale, pendant le festival de l'été dernier. Et ça a été exceptionnel. Ziggy Alberts, est-ce que vous le connaissez? Si vous ne le connaissez pas, c'est à découvrir. Il était aussi là. C'est des grosses pointures, là, d'énormes pointures, malgré tout, que Gestève réussit à signer pour ce festival-là. Et encore une fois, cette année, c'est assez impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire. Peut-être pas votre genre de musique ou encore des artistes que vous connaissez si vous êtes plus du type boulevard dans la programmation puis dans la musique. Mais c'est à découvrir, honnêtement. Ils font exprès pour que ce soit de belles soirées. C'est sur la plage. Vous allez là soit en maillot de bain ou en tenue estivale. Vous vous amusez, vous apportez un petit lunch, vous mangez la cuisine de rue, vous prenez des petits cocktails. Il y a des entreprises qui vendent des vêtements un petit peu plus de surf ou encore d'été sur place. Il y a de tout. Puis c'est une belle animation. Puis deux scènes, en fait. Fait qu'on manque jamais de musique. Les scènes sont à côté, un peu dans le concept Oshiaga. Quand tu as deux scènes côte à côte, tu as des artistes qui performent à gauche, puis sans laisser de trou entre la programmation. Mais à droite, ça recommence tout de suite. Comme ça, bien, les équipes techniques peuvent se préparer pendant qu'il y a un artiste qui joue à gauche ou à droite. Vraiment bien fait, honnêtement. Puis c'est pas encore victime de leur succès au point où ça a été un peu la première année pour les camions de cuisine de rue. Les files étaient un petit peu plus longues. Comme je vous dis, on a remédié à la situation. Mais ça reste encore très accessible. Facilement pour entrer sur le terrain, facilement pour avoir une belle place pour aller voir vos artistes favoris. Puis il y a quelque chose de très relax dans l'ambiance. Entre autres, ce qui a été annoncé, Cheat Faker, Dennis Lloyd, Fouki, qui sera là. Je sais que lui, vous le connaissez. Pelch aussi à connaître. Bob Moses, qui fait énormément réagir pour le positif, en fait. Des passes, en fait, des laissés-passer pour deux jours qui sont autour de 139 $. Billets journaliers, c'est autour de 100 $, mais tu as accès à absolument tout, là. Oui, il y a des endroits un petit peu plus, privilégiés, VIP, là, où tu peux acheter des billets. Mais... il y a une programmation sur deux jours. Entre autres, il y a The Cat Empire qui sera là, Matt Mason, Geoffroy. Si vous ne connaissez pas Geoffroy, c'est à découvrir. JP Sachs aussi qui sera là. Je l'avais vu en première partie de John Mayer. Très, très bon. On s'inquiétait un peu pour sa santé mentale à ce moment-là parce que j'avais l'impression qu'il était dans un gros break-up, dans une grosse rupture très, très difficile. Mais le gars est enjôleur dans sa musique. Sinon, Gab Bouchard, notre collègue Tob Gauthier est allé le voir récemment puis il a dit c'est un spectacle extraordinaire. Brice Denis sera là aussi. Je dis ça parce que Felipe Baldomir, il ressemble énormément. Rendez-vous sur le cigalequebec.com pour aller voir tous les artistes. Mais moi, je vous le dis, il y en a un que je vous conseille. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le connaissent, peut-être pas assez. Ce band-là, c'est Bon Entendeur. Ce sont des artistes, bien sûr, francophones qui font des petits beats relax, qui font du bien à l'âme. Puis à travers certaines chansons, ils mettent des discours qui nous font du bien, qui nous font réfléchir, comme un peu dans cette chanson-là, sur la voix des champions. Je vous fais entendre un extrait.
It's better to try and fail than not to try at all. And I think that's very important because sometimes people view losing sometimes in a match as failure. And I think you can learn a lot from losing and you build character.
Never to underestimate your opponent. So you've got to be ready for a very, very tough competitor.
Le plus important, c'est toujours d'essayer d'apprendre. Il faut être prêt à souffrir tous les jours pour être le meilleur possible. Les choses dans la vie, ça se passe toujours pour une raison et toujours pour le mieux.
Vous voyez un peu là, l'air d'aller, mais si vous connaissez peut-être Bon Entendeur sans le savoir, c'est grâce à cette chanson-là qui a énormément tourné. Ils l'ont repris, puis ça a fait... quand même l'effet d'une bombe partout dans la francophonie. Mais sinon, je vois les commentaires entrer puis des gens qui disent dans les auditeurs l'année dernière avec Portugal the Man, c'était magique. Mais oui, celle-là est brûlée, je suis d'accord avec vous. Donc, ça allait voir les autres chansons de Bon Entendeur. Mais Cigale, pour moi, c'est conclure l'été avec un festival extraordinaire, très, très relax. Je vous conseille. Les laissez-passer seront en vente dès demain, c'est ce qu'on a su. Lors de du dévoilement de la programmation hier, aussi aujourd'hui, date importante pour ceux qui veulent mettre la main sur des laissez-passer spéciaux un peu plus VIP au Festival d'été de Québec. Hein. Tout ce qui est zone signature, argent, or, il y aura des billets déployés dès midi à vous mettre dans la file d'attente puis à espérer que vous soyez capable de mettre la main là-dessus. Je sais qu'il y en a beaucoup qui étaient extrêmement déçus, finalement, de ne pas avoir un laissez-passer normal, si on veut, là, un laissez-passer régulier, je vais le dire comme ça. Et là, aujourd'hui, c'est la journée pour vous reprendre. Est-ce que je devrais le dire à la radio? Je ne sais pas, mais c'est dit. Une chose certaine, on travaille pour vous, donc oui, je devais le dire à la radio. Mais soyez aux aguets, ça va peut-être partir vite aussi. Et c'est en quantité limitée. Et on prend une courte pause, on vient. J'ai payé. Toujours des petits flocons qui tombent du ciel, des flocons qui se transforment en pluie rendus sur votre pare-brise d'auto. Dans votre secteur, il fait combien? Dans votre secteur, c'est quoi la vue que vous avez dans votre fenêtre? C'est vraiment des petits flocons frivoles, moi, que j'ai à Le Bourgneuf, dans le studio de Boulevard 102.1. On ne dira pas que l'hiver fait un retour en force, on va dire que l'hiver fait une journée d'hiver dans le printemps. Tiens, disons-le comme ça. Et je dois absolument parler de cette tragédie très importante qui nous touche. Puis il y a une question là-dedans qui m'est venue en tête. Puis ça me rappelle une conversation que j'avais eue avec Jean... C'était Jean-Luc Mongrain, je pense, avec qui j'avais parlé à ce moment-là, du journalisme international qui n'était pas assez important peut-être pour tous et chacun. Mais Jean-Luc Mongrain et moi, on avait, pour un reportage, là, eu la possibilité de manger ensemble pendant au moins 2 heures. Puis c'en est un qui travaillait dans le passé pour que ça prenne beaucoup de place, l'actualité internationale, dans vos téléviseurs, dans vos nouvelles. Puis on parlait de la guerre en Irak à ce moment-là. Puis ce qu'il disait, c'est qu'il y avait de la misère à faire passer le fait que c'est important d'en parler. Donc, de garder du temps à la télévision, de garder du temps de reportage pour ces événements-là qui bon, avait amené beaucoup de militaires canadiens et donc québécois à l'international, justement pour combattre dans cette guerre importante-là qui était, veux pas, un enjeu très occidental malgré tout. Et puis, il se rappelait d'une conversation avec son patron, puis il a dit « Le jour où le petit Tremblay va arriver dans un sac avec un zipper dans la cour de sa mère, vous allez trouver que cette guerre en Afghanistan est beaucoup plus importante puis beaucoup plus près de chez vous que vous le croyez. » Puis on a encore eu un exemple de tout ça dans les dernières heures. C'est absolument atroce, puis il faut en parler. Quelqu'un de chez nous, qu'on le connaisse ou pas, ça frappe l'imaginaire, puis ça fait mal de constater que cette guerre-là est beaucoup plus près de nous que l'on peut penser. Mais il y a un beauceron qui a péri parmi les victimes de la frappe sur le convoi humanitaire à Gaza. Ça fait un bout qu'on en parle, que même l'aide humanitaire est à risque à Gaza, que c'est un conflit qui perdure, qui est extrêmement violent, puis qui est violent pour le peuple, mais aussi pour ceux qui vont aider le peuple, dans les deux camps, disons-le comme ça. Et il y a un des 7 travailleurs humanitaires qui a été tué dans un bombardement israélien, qui était originaire de Saint-Georges, en Beauce. Il s'appelle Jacob Flickinger, j'espère que je le dis bien, seulement 33 ans, et lui assurait la sécurité d'un convoi humanitaire de la World Central Kitchen. C'est un organisme de distribution d'aide alimentaire, vous aurez deviné, et il donnait sa vie pour ça. C'était un vétéran des Forces armées canadiennes. Il a servi de 2008 à 2019, et seulement 33 ans, je vous répète, là. Et sa mère a raconté qu'il a été envoyé justement en Afghanistan en 2010, puis rapidement, il y a eu la piqûre pour les missions à l'étranger. Donc, quand tout ça a éclaté, lui, il s'est décidé à joindre la World Central Kitchen. C'était à l'automne 2023, c'était tout récent. Il a rapidement été envoyé au Mexique pour distribuer de l'aide alimentaire après le passage d'un ouragan. Ensuite, il a tellement aimé ça qu'il a décidé de continuer, en fait, à en faire de l'aide humanitaire. Puis, bien, ses compétences de service dans l'armée lui servaient aussi, justement. C'est absolument difficile de lire tous les témoignages de sa famille, de ses proches aujourd'hui dans l'actualité en même temps. C'est des témoignages qui se valent. Je pense qu'ils sont essentiels pour nous faire connaître un peu cette personne-là. C'est triste d'en parler tout le temps après. Hein? Dans ce genre de tragédie-là, on met en lumière des personnes qui... Souvent, ça se peut là, qu'elles souhaitent rester dans l'ombre, puis majoritairement même. Mais de parler de don de soi comme ça après la mort de quelqu'un, ça reste un cadeau, je pense, pour la famille puis les proches. Mais en même temps, j'aurais aimé ça qu'on entende parler de lui avant. Et sa mère... à Jacob Flickinger. Elle dit, j'espère que la mort de mon fils fera pas en sorte que ça soit juste en vain, en fait. Elle dit, j'espère vraiment que son départ ne passera pas sous silence, que ce soit d'arrêter la tuerie, d'arrêter la violence, que ce soit de retourner tous les otages à leur famille. Il faut à un moment donné que cette fichue guerre ait une fin à quelque part. C'est touchant. Ses amis aussi disent à quel point c'était une bonne personne. Il avait été à Gaza depuis quelques semaines quand son convoi a été bombardé, puis il devait rentrer au Costa Rica, là où il habite depuis 2 ans avec sa femme puis son fils de 18 mois à la fin de la semaine. Donc, il prenait du temps quand même pour aller aider, puis il devait revenir. Grande et belle et forte pensée pour sa famille proche. Quand tu y penses, en fait, il y a un enfant qui a perdu son père, qui est héroïque malgré tout dans tout ça. Il y a près de 200 travailleurs humanitaires qui ont été tués dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre. Je pense qu'il faut en parler plus. Puis justement, quand on en entend parler, puis on dit « Ah, j'ai goût de changer de poste », il me semble que c'est loin, c'est de l'actualité internationale, c'est là où ça prend tout son sens, puis qu'on se rappelle qu'on est une force d'humains, tout le monde ensemble, puis que c'est beaucoup plus dans notre cours qu'on pensait. Mes meilleures pensées, mes sympathies aux proches de Jacob, honnêtement. Je dois parler d'un autre dossier aussi qui est dans l'actualité. Et je me questionne énormément parce que j'ai vécu un malaise en lisant cette nouvelle-là. Celle sur Stéphane Huot, qui déclare faillite. C'est écrit « C'est la pire défaite de ma vie ». Il est endetté de près de 1,2 milliard de dollars. C'est le promoteur immobilier de Québec là, dont on a entendu beaucoup parler dans les derniers mois. Il dit qu'il jette l'éponge après la spectaculaire débâcle du groupe Huot. Stéphane Huot, qui était très connu dans le milieu des affaires pour plusieurs raisons. Et là, il dit que c'est son plus gros échec. Puis on lui donne une page, en fait, dans le Journal de Québec. C'est un travail journalistique comme un autre, mais moi, j'ai décidé de ne pas... mettre sous silence ou taire le grand malaise que j'ai, parce qu'on entend plein d'histoires, puis aussi beaucoup de fournisseurs et autres qui ont eu des problématiques à cause de la mauvaise gestion, dans ce cas-ci, avec le groupe Huot. Puis, je ne sais pas comment je me suis sentie de voir un article où sa photo est là, puis dit, ben c'est ma plus grande débâcle, c'est mon plus gros échec à vie, c'est difficile, quand finalement, je pense que plusieurs fournisseurs autour de lui ou encore de petites entreprises qui ont fait affaire avec le groupe Huot, qui en souffrent encore, qui vont en souffrir beaucoup plus que faire faillite finalement. Vous en pensez quoi, vous, 88-971-1021 ou encore sur Twitch? Conduite dangereuse, il y a un motocycliste qui a été arrêté après une fuite de 110 km/h parce que il a manqué d'essence, sachez-le. Ça là, c'est pas la première fois que j'entends ça. Des motocyclistes qui veulent se sauver de la police quand les gyrophares s'allument puis que puisque ils peuvent se faufiler, aller un petit peu plus vite, être un petit peu plus fast and furious dans leur conduite et réussissent à semer la police. Et pour plusieurs policiers, ce qui est discuté, c'est quand il y en a un qui fuit comme ça en termes de motocycliste, ben on laisse aller parce que ça peut devenir plus dangereux finalement pour les autres autour, pour le motocycliste en question et pour les policiers. Et là, cette fois-ci, celui qui a 19 ans, qui a pris la fuite après avoir commis une infraction du code de la route en Gaspésie, il a manqué d'essence. Alors, il a été arrêté. Il circulait sur la 132. Il y a un patrouilleur qui a signalé son intention de l'intercepter. Ça s'est fait hier matin. Oui, pas ce matin, vous comprendrez. Et il n'a pas voulu s'arrêter. Il a accéléré. Il a pris la fuite, peut-être par les rumeurs qu'on entend des fois de poursuites policières avec la moto, mais ils ont réussi à le localiser parce qu'il manquait d'essence. Il a tellement mis il a tellement pesé sur le champignon qu'il a tout pris son essence, puis on a été capable, malgré tout, de lui mettre la main au collet. Ça devrait lui coûter cher, je pense. Et autre nouvelle qui nous concerne cette fois-ci à Québec, qu'on suit avec attention, c'est celle de la mort du Poupon de 14 mois dans une garderie. La gardienne a été officiellement accusée de meurtre. Jean-Huit Mubwaka, qui fait face à une accusation de meurtre au deuxième degré. Josapha Neldele est quant à lui accusé de complicité après les faits. C'est une accusation importante pour cette éducatrice d'une garderie de Beauport où la jeune fille de 14 mois a perdu la vie le 21 mars dernier. Là, initialement, elle était accusée, la gardienne, de voies de fait et de bris de promesses. Et là, son dossier s'alourdit de la plus grave accusation qu'on connaît là, du code criminel au deuxième degré, meurtre au deuxième degré. Et le 25 ans, il a été officiellement accusé de meurtre au deuxième degré, comme je vous disais, dans cette mort du Poupon, dont elle avait la garde. Au palais de justice, elle avait la tête basse, elle s'est présentée dans le box des accusés, elle ne regardait pas la douzaine de proches qui étaient venus assister à la comparution. Ce qu'on dit également, c'est que pendant l'acte d'accusation, les événements notés, en fait, si ça se serait produit le 21 mars dernier, on rappelle que les services d'urgence avaient été appelés à se rendre dans une résidence de l'avenue Sainte-Thérèse pour un enfant qui était inconscient. Il y a eu manœuvres de réanimation qui ont été entreprises, puis immédiatement là, sur place, mais aussi dans le transport du Poupon en ambulance. Puis son décès a été constaté finalement quelques heures suivantes à l'hôpital. Il n'y a pas d'informations quant aux circonstances encore du décès de l'enfant. Peut-être qu'on va en apprendre un petit peu plus tard, mais le dossier va revenir devant le tribunal le 25 avril prochain. Donc, je vous répète que c'est une accusation importante qui a été ajoutée au dossier de Jean-Huit Mubwaka dans l'histoire du Poupon de 14 mois qui est décédé dans une garderie de Beauport à Québec. Ça, c'est le plus grand... Je pense que c'est la plus grande crainte de chaque parent. J'asais avec Élodie Derry, notre collègue ici, pas nécessairement de cette nouvelle-là, mais de la recherche de garderie qui est toujours complexe pour les nouveaux parents. Il faudrait inscrire notre enfant sur une liste d'attente sans avoir en tête d'avoir un enfant. Je ne sais pas si ça vous a pris combien de temps, vous, avec vos enfants, là, réussir à trouver une garderie, mais c'est très complexe. Puis à la fin, bien, si tu n'en trouves pas, peut-être que tu vas dans des garderies où tu n'aurais pas été nécessairement. Là, je ne suis pas dans le jugement de si une garderie est bonne ou pas. C'est un feeling parental, je crois. Puis s'il y en a des garderies que vous sentez un petit peu moins bien ou autre à l'intérieur, ben ça se peut que vous les choisissiez quand même parce que ben c'est la seule façon de vous assurer de retourner au travail puis que votre enfant ne soit pas laissé pour compte. Hein. Alors, je pense qu'il y a des petits sacrifices parentaux ou encore des petites craintes parentales qu'on met de côté à un moment donné quand on n'est pas capable de trouver une garderie qui rejoint ce qu'on souhaitait justement avoir pour notre enfant. Là, je fais... Oui, un lien avec la nouvelle, mais ce n'est pas une corrélation directe avec la nouvelle. Tout ce que je veux dire, c'est, je pense que c'est la plus grande crainte des parents que ça tourne mal comme ça, là, puis je pense qu'on s'en remet nécessairement jamais. Hein? C'est pas mal ça. Pour les diverses questions du bulletin de nouvelles, il y a des gens qui disent pour UOT, moi, personnellement, la nouvelle m'a aussi choquée. J'ai quand même vécu un malaise de l'entendre parler de son échec financier, son échec d'entreprise dans les médias. Je me serais gardé une petite gêne, peut-être justement pour ceux qui en arrachent encore et qui ne feront pas faillite, mais finalement ont perdu énormément d'argent. Quelqu'un d'autre qui dit « Pour le dossier du UOT dans l'actualité, moi, assurément, j'ai trouvé ça déplacé qu'ils se permettent une photo en couverture puis un témoignage. » Bien, c'est sûr, ça attire les clics, là, puis c'est pas la faute nécessairement journalistique là-dedans. Je pense que c'est lui qui aurait dû refuser, selon moi, de se mettre au devant là, dans une histoire comme celle-ci, mais chacun choisit, puis il n'y a pas de... Il n'y a rien de mal, mais on peut se poser la question. Quelqu'un qui dit par texto, pour la justice n'a pas le bras assez long pour les amateurs de faillite dans la construction qui, pour certains, mettent tout au nom de d'autres personnes. Dans, là, on se dissocie du dossier de UOT, là, mais ils se mettent tout au nom de proches autour d'eux, puis sont saisissables nulle part pour certains abuseurs de système. Quelqu'un qui dit, il y en a eu beaucoup dans la construction, des gens qui ont fait faillite puis qui ne méritaient pas qu'on trouve une façon de s'en sortir dans leur dossier. On sort encore du dossier de UOT, là, mais on parle en général, puis ça semble choqué aussi par texto. Quelqu'un aussi qui dit, ben là, la faillite, vous avez eu une entrevue dans Marceau le midi récemment là-dessus, à quel point c'est facile pour certains entrepreneurs de déclarer faillite, mais que les contrats établis avec les sous-traitants, ceux en dessous, ne sont pas honorés et ne se font pas payer. C'est ça qui est atroce dans les dossiers comme ceux qu'on voit là, parfois dans les médias. Hey, mon Dieu, vous êtes tellement à commenter la nouvelle. Ça rentre énormément. Je vais prendre une petite pause avec vous pour aller vous lire puis consacrer le temps qu'il faut à vos commentaires. Si vous voulez participer, c'est le 88-971-1021. Mathieu, à Boulevard 1021. Puis pour ceux qui travaillent 40 heures semaine, ben je vous la dédie. Il y en a qui travaillent fort, qui ramassent leur argent comme il faut, puis qui s'en sortent à cause de ça.
L'heure CV avec Pascal CV.
Ouais, ben par texto, vous avez été très actifs. Les claviers se faisaient aller. Beaucoup avaient à parler des nouvelles dont on a discuté dans les dernières minutes. Mais ouais, malaise sur certains dossiers. Entre autres, les gens qui font des faillites puis qui parlent de leurs échecs au grand vent. Là, moi, je vous dirais que... C'est le genre d'article où je suis mitigée en même temps. Vous avez chacun vos commentaires là-dessus. On parlait des garderies aussi, à quel point c'est difficile de trouver une garderie pour les enfants. Mais il y a Marie-Pierre qui dit, moi, trouver une garderie, ça a été facile il y a 7 ans. Même très, très facile. Mais c'était un milieu non subventionné. La personne avec qui on a fait affaire a été formidable. Elle a même accepté mon enfant en besoin particulier qui se faisait refuser l'accès à un CPE parce qu'il a eu besoin, en fait, de choses complètement différentes des autres enfants. Félicitations. C'est pour ça que c'est une vocation. Puis c'est comme ça qu'on construit notre société, en fait, en donnant l'espace qu'il faut à ces jeunes-là, peu importe leurs difficultés ou leurs besoins. Je trouve ça formidable, formidable. Je veux vous parler justement d'enfance, mais pas nécessairement petite enfance. Même. Je veux dire adolescence. C'est-tu difficile de jaser avec vos ados? On dirait qu'il y a un âge à partir duquel vos ados vont jaser à plein de gens, mais pas nécessairement à vous en tant que parents. Puis jaser avec Jeff Fortin, notre collègue, récemment, puis ce qu'il disait, c'est que... Là, j'espère son gars écoute pas, là, ben je vais peut-être... Jaser avec quelqu'un, là, comme ça, croisé à la va-vite sur le trottoir récemment, qui s'est mis à me parler de ses adolescents tout au tout. Puis qui disait, moi, il n'y a plus de canal de communication qui est très facile pour donner un conseil, pour écouter, pour parler, pour triper, facile avec mon ado. Mais quand vient le temps de donner des conseils, quand vient le temps d'aiguiller mon ado, je suis rendue trop près de lui. Je suis son père, donc il n'y a pas de possibilité que mon conseil passe. Alors, le père en question, croisé comme ça là, sur le trottoir, a parlé d'une solution puis d'une idée de génie, en fait, qu'il a eue. Il est très près de quelqu'un, d'un autre adulte, en fait, du sport que son fils pratique. Puis il a commencé à jaser avec parce que son fils disait souvent « Hey, il est vraiment cool, mon coach, blablabla, il me donne des bons conseils. » Puis là, le papa a eu l'idée de jaser avec le dit coach, puis se sont alliés là-dedans. Alors, quand il y a certaines difficultés à la maison ou conseils qu'il a passés, bien, le père et le coach sont de manigance ensemble pour justement que le coach propose une solution ou un conseil aux jeunes en question à l'ado. Puis c'est super bien pris. Bon, ça peut être un petit peu choquant, ça peut être un peu tannant en tant que parent, mais c'est l'adolescence. Et les psychologues ont fait des articles récemment sur des conseils pour parler à son ado. Et ça commence par le faire à table. Je vous ai souvent parler de l'importance des soupers de famille. Hein. C'est à ne pas négliger. Puis pourtant, même nous, en tant qu'adultes, en couple, combien de fois on mange devant la télévision puis qu'on se prépare pas ou encore des moments, là, en fait, où on s'assoit à table ensemble sans cellulaire, sans télé, sans rien, juste pour discuter, juste pour prendre le temps de vivre le moment et le partage culinaire qu'on a ensemble. Alors, en famille, ça va vite parfois aussi. Les enfants sont pas toujours intéressé à jaser, mais les soupers de famille, c'est reconnu pour développer l'estime des jeunes, le débat critique, le sentiment d'appartenance, les faire sentir de façon inconsciente entourés, donc beaucoup mieux dans leur vie, beaucoup mieux dans leur peau. Il y a des avantages insoupçonnés au souper de famille. Si jamais c'est quelque chose que vous avez mis de côté, peut-être en ramener un une fois par semaine, où là, on pose des questions, on débat de certains enjeux. C'est pas besoin de débattre sur le conflit israélo-palestinien, c'est pas ça que je dis. Mais d'avoir des enjeux intéressants autour de la table, ça forme la jeunesse, ça forme l'être humain qu'il est, mais surtout, de façon inconsciente ou consciente, ça dépend des jeunes, il va se sentir entouré dans un foyer puis avec des gens qui seront un filet de sécurité. Peu importe ce qui arrive dans leur vie. Tu sais, avec les amis, des fois, à l'adolescence, c'est un peu ingrat. Même chose pour les petits copains et les petites copines. Mais la famille, ça reste un noyau. Puis quand on a la chance d'avoir un foyer aimant, un foyer présent, les soupers de famille le rappellent à l'enfant. Bon, alors on part de ça. Parler à son ado, ça se fait à table. Échanger avec les adolescents, puis si tu veux avoir une réponse, des fois, qui est un peu difficile à avoir, bien, il faut tailler des trucs. Et là, j'en ai pour vous. Donc, les parents qui veulent parler à leurs ados s'assoient ensemble à la table du repas, OK? Bon, il va y avoir un silence gênant au début, ça se peut, il peut y avoir des disputes qui éclatent. Ça vient avec. Il ne faut pas commencer à se faire du mauvais sang à cause de ça. Ça fait partie du jeu, OK? Et il y a David Bueno, c'est un professeur au département de génétique de l'Université de Barcelone qui, avec certains psychologues, ont mise en place des conseils pratiques et sincères pour gérer les petites crises au quotidien, développer un canal de communication. Le premier point, c'est donner du temps puis d'être flexible. Ça paraît large, mais les adolescents sont souvent dépassés, on le sait. Hein? On est en transition vers un monde adulte, tout est stressant, l'école est stressante. Et si on dit constamment, tu es juste à l'école, là, attends de travailler, attends la vie adulte, tu vas comprendre c'est quoi les vrais enjeux. On le sait, c'est vrai ce que vous dites, mais n'allez pas là. Vous allez les stresser encore plus, vous allez fermer le canal de communication. Il faut baisser le stress, il faut baisser la pression à table. Et là, ça va être plus facile de les faire s'ouvrir, puis ils vont être plus enclins à se confier. Ils vont avoir une certaine souplesse au niveau des directives, de la routine, des horaires qui va les aider justement à créer cette connexion avec vous. Et puis c'est sûr qu'il y a des règles à respecter, là. C'est indispensable dans le bon fonctionnement d'une vie de famille puis en même temps dans la formation de l'individu que vous avez devant vous, soit votre propre enfant. Mais il faut une certaine liberté. Puis ça va faire en sorte que vous allez vous faire respecter et votre enfant, votre ado va vouloir aussi que vous le respectiez, donc ils vont agir en conséquence. Il va y avoir des frasques. Hein? Tout n'est pas rose. Faut pas mettre nos petites lunettes roses. Deuxième point, c'est de créer des liens solides dès le début. Bon, si vous avez foiré à partir de maintenant, on va essayer de ramener ça. Mais la base d'une bonne relation parent-enfant à l'adolescence, ça se trouve à se construire dès l'enfance. Donc, si vous êtes parent d'enfants en ce moment, qui ne sont pas adolescents, écoutez ça. Si vous êtes parent d'adolescents, c'est pas fini, OK? Vous n'avez pas passé à côté. Mais dès le plus jeune âge des enfants, c'est souhaitable de manger ensemble au moins une fois par semaine. Ça établit l'habitude de passer du temps en famille puis d'avoir des conversations puis que ça soit normal et routinier et assuré aussi. Donc, les enfants peuvent réaliser tôt qu'ils vont pouvoir prendre la parole, qu'ils vont pouvoir être écoutés et que leur avis est pris en compte. Ça, c'est important, hein? Parce que vous pouvez bien jaser en famille pendant 2 heures, mais si à chaque fois vous coupez votre jeune puis ce qu'il dit, même si ça fait pas de sens parfois, il n'est pas écouté ou réfuté, on n'est pas sur la bonne voie. Mais ça permet de créer des bases pour une conversation à table. Et en période de crise, c'est là où tout va être prêt. Hein? C'est comme en couple, finalement. Il faut gérer nos gros dossiers puis nos dossiers financiers et autres pendant que ça va bien, parce qu'après, ça peut être plus complexe. Il ne faut pas mâcher ses mots. Mais il y a une ligne quand même. Hein? Mais il y a beaucoup de jeunes adultes en devenir qui ne veulent pas se faire infantiliser. OK? Donc, pas « Oui, mais là, toi, tu sais, t'es jeune, t'es adolescent, tu vas comprendre la vie plus tard. » Non, 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 non. Je vous répète, on va pas là. Si les parents veulent que leurs enfants racontent presque tout, il ne faut pas s'attendre à tout non plus, mais presque tout ouvertement, il doit pas y avoir de censure. Donc, il faut parler sans s'auto-censurer. Ça vaut pour les sujets qui touchent votre vie en tant que parent, les amis, le travail, mais aussi pour les domaines qui sont plus difficiles comme les soucis personnels, la mort, les maladies et le sexe. Donc, on s'attend à une ouverture de part et d'autre, autant du parent que de l'adolescent. Et ça, ça met en place des canaux de communication fluides et ouverts. Et quatrième conseil, je le trouve tellement bon ce conseil-là. Ça a servi à beaucoup de parents, mais ça a servi à beaucoup d'adolescents d'être compris. C'est de ne pas oublier sa propre adolescence. Malgré le fait que les paradigmes changent, malgré l'avènement des réseaux sociaux pour certaines générations, malgré le langage qui change, malgré les... Peut-être, je veux dire quand même, il y a maintenant un petit peu plus d'ouverture à certains secteurs. Malgré tout ça, il ne faut pas oublier sa propre adolescence en tant que parent. Il ne faut pas perdre la perspective de l'adolescence. Il ne faut pas diminuer justement ce qu'ils vivent, puis le stress, puis peut-être justement les montagnes qu'ils voient à l'adolescence quand ils ne payent pas de factures, qu'ils ont un job à temps partiel, puis que finalement on peut se rendre compte que dans les études, bien, il peut y avoir des échecs sans que ça crée un gouffre immense entre la possibilité d'avoir un beau futur, une belle vie, puis le présent. T'sais, je dis ça, mais il ne faut pas oublier cette perspective de l'adolescence. Rappelez-vous le sentiment de liberté que vous vouliez avoir, le sentiment d'aventure que vous vouliez avoir. Le cerveau accumule toutes les expériences passées, puis on essaie toujours de les interpréter à partir du présent, de notre réalité à nous, personnelle. Mais c'est leur réalité personnelle à eux, dans leur adolescence. Donc, c'est rassurant, autant pour les parents que pour les jeunes, de sentir que le parent se souvient des bêtises qu'il a faites, des erreurs qu'ils ont faites, des expériences qu'ils ont faites quand ils étaient jeunes eux-mêmes. Rappelez-vous votre adolescence. C'est quoi la plus grande connerie que vous avez faite? Vous voulez peut-être pas que votre enfant la vive puis l'expérimente aussi. Bien ça peut se jaser, mais pas dans l'interdiction. Il faut être ouvert justement à ce qu'ils fassent leur expérience, leur bêtise. C'est comme ça qu'ils seront pas des enfants droits. Ils vont avoir vécu des problèmes. Il y en a des plus gros que d'autres, j'en conviens. Mais ils vont être capables, justement, de développer leur esprit critique puis de faire « Ouais, non, ça, je l'ai fait, cette connerie-là, je la referai pas. » Parce qu'ils l'ont fait, cette connerie-là, comme vous, quand vous étiez jeune. Même si on préfère que nos jeunes fassent pas les mêmes stupidités que nous, ben il faut qu'on les laisse faire leurs propres expériences puis de sentir qu'ils ont la latitude de faire leurs propres expériences va faire en sorte que vous serez capable d'avoir énormément de bon temps avec eux, puis de connexion avec eux. Puis on répète les commandements, ça commence dès l'enfance. Fait que dès que votre jeune est jeune, bien, le canal de communication est important. Il y a eu des commentaires comme quoi, pour être quatre à la maison, ça n'arrive même pas une fois par semaine qu'on soit les quatre à table. Là, Fred, je pense que là... on va s'attendre de ta part, parce que Fred, c'est un auditeur régulier, là, que tu nous reviennes avec certaines solutions ou encore moments où vous avez réussi. Quelqu'un qui dit, en fait, moi, c'est la raison pour laquelle le vendredi soir, je commande toujours du resto pour toute la famille, parce que la famille est excitée de manger du resto, puis on mange ensemble, puis on peut jaser. C'est une bonne solution, ça. Mais quand ça vire pas en chicane, hein, entre frères et sœurs, ou plus fréquemment, sœurs, oui, bien ça, faut faire avec. C'est formateur aussi pour les jeunes, mais ça reste des beaux cadeaux que vous avez donnés, soit des frères et des sœurs, à vos enfants. J'adore les voir ensemble malgré tout, comme quand ils étaient petits. Ça me fait du bien aussi en tant que parent. Quelqu'un qui dit aussi, je confirme que même avec 11 ans de différence, ça s'obstine pareil entre les enfants. Quelqu'un qui dit, je lève mon chapeau à tous les parents, justement, avec une différence d'âge entre les enfants, parce que oui, ça peut être un peu le chaos parfois. Pour vous encourager, rendu à 21 et 23 ans, ça n'arrive plus ben, les chicanes. Bon, mais vous voyez, tout passe. Les orages passent, hein? Peu importe l'orage en question. Quelqu'un qui dit, je travaille avec des ados depuis presque 30 ans. Le défaut de fabrication des parents, puis elle met entre parenthèses, c'est que le parent se met en mode solution, alors que les enfants veulent seulement être écoutés. C'est souvent ça qui brise la communication et empêche les enfants de se confier. Très bon, Isabelle. Vraiment. Puis donne-nous un peu plus d'informations sur ce que tu fais dans la vie. Je ne le dirai pas à la radio, mais d'un coup, qu'on puisse utiliser tes compétences et ton regard sur différents sujets dans leur CV. Et restez là, vous savez ce qui se passe en fin de show parfois. Mais en tout cas, du moins cette semaine, c'est des cadeaux. Et il y en a un qui est emballé. Qui est emballé avec une petite étiquette du Centre Vidéotron. Après les vulgaires machins et obsolètes, peut-être que ce sera toi, toi ou toi qui va déballer le cadeau du Centre Vidéotron.
RCV avec Pascal CV.
S'en est suivi une grande conversation sur Twitch au sujet de la parentalité, de l'âge à laquelle on a eu nos enfants. Je dis « Oh, mais ça exclut clairement la personne qui parle. » Quelqu'un qui dit « C'est un bonheur pour moi d'avoir eu mon fils à 18 ans. Je sortais de l'adolescence puis je me souvenais très bien de ce que j'appréciais ou non de ma relation avec mes parents. Donc, je faisais des efforts pour essayer de faire mieux, même si j'ai eu de très, très bons parents. C'est vrai, quand on est un peu collé sur cette jeunesse-là, on se rappelle comment on sentait puis ce qu'on souhaitait. Quelqu'un qui dit « C'est pas évident par bout avec mon adolescent. » Avec son TDAH et certaines difficultés, je me retrousse les manches souvent. Félicitations, Patricia. Il y a beaucoup de parents qui sont dans ton bassin, là, puis je vous trouve vraiment très fort. Pas toujours facile, effectivement, élever un enfant. Puis ça, c'est d'une personne qui n'en a pas, qui vous le dit. Quelqu'un qui dit « Je cherche les solutions pour qu'on passe du temps en famille, mais ma fille est absente du samedi jusqu'au vendredi, jusqu'au mardi matin et travaille au moins deux soirs les autres jours. Donc, lorsqu'elle est présente, je fais ce que je peux. » C'est vrai, c'est pas toujours facile. Hein. On parlait de l'âge aussi. Ça serait un sujet, c'est sûr, parce que vous commentez énormément. Mais à quel âge? C'est quoi l'âge parfait pour avoir des enfants? Puis là, n'allons pas dans quand t'es prêt, quand tu le souhaites, lorsque tu le sens. C'est pas ça là, qu'on a envie de jaser tout le monde ensemble. Mais OK, on va ramener la question demain. Je mets même une petite note là. Mais quand tu as des enfants jeunes, il y a des avantages. Tu es plus près de ta propre jeunesse. Probablement que tu es plus en forme, tu as plus d'énergie. Mais quand tu vieillis puis tu as des enfants un petit peu plus tard, ben, tu as peut-être plus de sagesse, tu as vécu ta vie, tu as des expériences financièrement. Tu es mieux placé normalement. Ça dépend de tous et chacun. Mais ça va être intéressant de vous lire. Alors, préparez-vous pour demain. On va aborder le sujet dans leur CV. Mais là, c'est très important. Il faut que je vous gâte. Et le petit paquet emballé avec le petit collant du Centre Vidéotron concerne cet artiste. Yeah, nigga, I'm still fucking with you. Still waters run deep. Still Snoop Dogg and D.R.A. Nah, nah, nigga, guess who's back? Guess who's back? Snoop Dogg au Centre Vidéotron sera là le 6 juin prochain. Ouais, il va être à Québec avec sa gang. C'est qui sa gang? Warren G, DJ Quick, Green Lantern. Et c'est pour la tournée Kelly to Canada Tour. Et cette semaine, quand vous écoutez Boulevard 102.1, on vous garde pour deux raisons. Celle où vous avez la chance de gagner votre paire de billets pour aller voir Snoop Dogg. Là, c'était Dr. Dre, on entend, mais Snoop Dogg est là. Il danse en ce moment avec son fameux mouvement très connu. Son bandana est probablement sa grande fumée. Les billets sont en vente sur Gestev dès demain, 10h. Okay, alors, à 10h demain, ça vous tente d'aller voir Snoop Dogg après sa performance du Super Bowl et tous les vidéoclips et tout ce que vous connaissez de lui, ça sera en vente sur le site de Gestev. Mais moi, j'ai une paire de billets à donner immédiatement au 88-971-1021. Pourquoi vous voulez aller voir Snoop Dogg au Centre Vidéotron le 6 juin prochain sur le bras de Boulevard 102.1. C'est au 88-971-1021. Et pour les autres, je vous rappelle que d'écouter toute la programmation pendant quelques semaines à Boulevard 102.1 puis tout le temps, c'est extrêmement payant parce qu'on a un grand concours du printemps. Vous êtes tripeux, on est tripeux, donc on a organisé le Rock and Ball. On vous envoie en Californie. T'sais, Snoop Dogg vient ici, nous autres, on va aller visiter la Cali, donc l'endroit par prédilection de Snoop Dogg. La partie rock, c'est pour des billets pour aller voir Blink-182 au Chase Center, la tournée Réunion, et le côté ball, c'est fou. On vous envoie voir les Blue Jays contre les Giants au Oracle Park. Donc, San Francisco vous attend en juin prochain. Ça inclut le vol, l'hébergement, l'argent de poche. Merci beaucoup à Variété 2020 qui nous permet de vous gâter comme ça en embarquant dans le trip de rêve. Là. C'est fou, vous allez faire des économies là-bas. Si vous ne connaissez pas Variété 2020, bien, grâce au concours, vous allez les découvrir aussi. C'est un magasin de surplus d'inventaire à Québec. C'est pour ça que c'est des prix faramineux et intéressants. Vous allez pouvoir économiser en vêtements, en jouets, en literie, en électronique, finalement, aller voir leur page Facebook. Et pendant toute la journée, si vous entendez des chansons de Blink-182, vous notez l'heure et vous allez vous inscrire sur le site de blvd.fm. Puis ça se peut que ce soit vous qui allez gagner ce concours-là du Rock'n'Ball. Bonne chance à tous. Ça, oui, il manquait peut-être un S. C'est tout pour l'heure CV. On se retrouve dans un instant dans Marceau le midi. On vous accompagne pour l'heure du lunch.